château, on va visiter les nôtres.
Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série du fil de l'histoire. Cette semaine, on parle des révoltes paysannes au début de la Révolution française. Pourquoi la grande peur à l'été 1789 ? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine du lundi au vendredi à 14h50, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série qui sera aussi diffusée ce dimanche exceptionnellement à midi sur France Inter. Quand on pense au début de la Révolution française en 1789, viennent en tête les cahiers de doléances, les états généraux, le serment du jeu de paume, la prise de la Bastille, la nuit du 4 août, des événements survenus à Versailles ou à Paris. Mais on oublie souvent qu'entre le 20 juillet et le 6 août 1789, un vent de rumeurs et de révoltes, sous forme de réactions en chaîne, considérée comme l'une des plus extraordinaires paniques de masse de l'histoire, s'est emparée de la France des campagnes. Si soudain, si violent et si multiforme qu'on l'appellera plus tard la Grande Peur. Partout dans le royaume, des paysans prennent les armes, persuadés que des brigands ou une armée étrangère vont faire irruption et détruire leurs récoltes. D'autres mettent le feu au château des seigneurs, redoutant un complot aristocratique contre la Révolution. Mais que s'est-il passé exactement ? Cette grande peur est-elle un énième épisode des révoltes paysannes d'Ancien Régime ou bien l'expression inédite d'un mouvement révolutionnaire ? On en parle toute cette semaine avec vous, Jean-Clément Martin, bonjour.
Bonjour madame, je vous remercie.
Vous êtes professeur émérite d'histoire de l'Université Paris 1, spécialiste de la Révolution française et auteur d'un livre, La Grande Peur de juillet 1789, édité en 2024 chez Talendier.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Hier, le prévôt de Brive me disait que dans la nuit du mercredi au jeudi, une bande avait mis le feu à la porte d'une ferme près du Bois de Villiers. Pour sauver leur vie et leur propriété, ils se sont vus obligés de leur donner 150 livres.
150 livres ? Mais on dit qu'il y a 5000 mercenaires dans les bois au-delà de Limoges.
5000 ? Quelqu'un les a-t-il comptés ?
À partir du 20 juillet 1789, l'Assemblée nationale reçoit des provinces des lettres alarmantes. En plusieurs régions, le peuple se soulève ou refuse de payer ses impôts. Des villes réclament des secours pour dissiper des troupes de brigands. Dans la région de Soissons, la rumeur court que 4000 brigands sévissent et coupent le blé qui pourtant est encore vert. Une vraie tragédie, puisque couper le blé alors qu'il n'est pas encore mûr, c'est anéantir à l'avance une récolte. À Rambouillet, un procureur et son gendre, accusés d'avoir accaparé du blé, échappent de peu à un lynchage. Des troubles éclatent aussi dans le Perche, en Normandie, dans le Nord, près de Lille. Mais un des épisodes les plus tragiques de ce début de grande peur se déroule en Franche-Comté. Au château de Quincey, près de Vesoul, les habitants du village y sont réunis le 19 juillet pour célébrer la prise de la Bastille, lorsque soudain, vers 23h, en pleine fête, une violente explosion entraîne la mort de 4 personnes et détruit une partie du château. On le saura plus tard, il s'agit d'un accident provoqué par des poudres entreposées au château. Mais l'épisode est vite interprété comme un attentat. On se met à dire que le seigneur de Mémet, furieux de la prise de la Bastille, aurait provoqué l'explosion pour se venger du tiers-état. À Versailles, une gazette de l'Assemblée nationale en donne un récit très dramatisé. Depuis l'affreuse explosion, tout dans Quincey n'offre que l'image de la mort, de l'effroi, des cadavres amoncelés, des membres épars, des débris d'édifices ébranlés. Le bruit de cette abomination se répand bientôt dans Vesoul et dans les campagnes. Les habitants des villages voisins conçoivent le projet de dévaster toute la province et de détruire tous les châteaux. Jean-Clément Martin, avant d'entrer dans le récit et l'interprétation aussi de la grande peur, pouvez-vous nous expliquer, nous exposer le contexte très particulier de ce mois de juillet 1789 en France ?
Oui, alors vous avez rassemblé ensemble, et je suis très heureux, tout ce qui se produit en même temps, c'est-à-dire la peur héritée de ce climat très difficile de tension entre les propriétaires, les paysans, tout, et puis entre les nobles favorables et hostiles à Louis XVI, et vous avez aussi présenté les paniques avec les insurrections. Et vous avez parfaitement raison, et c'est ça la question qu'il va falloir se poser tout le temps de cet entretien, c'est que, en définitive, ce qu'on date du 20 juillet 1789, c'est déjà présent auparavant, c'est déjà avant, dès le 18 juillet, les députés sont allés sauver in extremis un meunier qui était en train d'être jugé et que les paysans autour voulaient exécuter. Et puis, je remonterai un petit peu plus
haut.
Vous
êtes à Paris, vous êtes où ?
On est à Saint-Germain, à côté de Poissy, et on est le 18 juillet. Mais il me semble que pour comprendre ce qui se passe là, il faut aller un tout petit peu plus haut. Il faut aller entre le 11 et le 14 juillet, quand Paris est pris par toutes ces insurrections, toutes ces peurs, toutes ces paniques, des gens qui vivent dans Paris et au bord, et qui brûlent les barrières d'octroi, et qui cassent en définitive tout l'ordre. Ce qui se produit là, c'est la disparition de l'ordre autour de l'administration royale et littéralement là, la rencontre entre toutes ces demandes multiples et puis, en définitive, ce qui reste vis-à-vis du peuple, qui sont ces élites locales qui vont résister ou qui ne résisteront pas. Et ça sera ça qui va déterminer la violence ou le calme des provinces qui sont touchées par cette peur.
Comment la nouvelle de la prise de la Bastille, donc le 14 juillet, est perçue dans les provinces ?
L'épisode du château qui a explosé, la nouvelle n'était pas encore arrivée. Ça a déjà commencé à partir de mars-mai 1789, ces hostilités qui sont des hostilités devant la résistance d'un certain nombre de propriétaires terriens qui ne veulent rien changer, et puis devant la politisation, parce que c'est notamment en Bretagne que les élites bretonnes, on va dire patriotes, réformatrices.
Oui, pour parler de ceux qui sont pour la Révolution.
C'est le Chapelier, par exemple, qu'on connaît, parce que c'est peut-être le grand député breton, celui qu'on accusera plus tard d'avoir créé cette loi qui interdit les corporations et donc les syndicats, parce qu'on fait l'amalgame.
Est-ce qu'on peut dire que c'est les cahiers de doléances aussi, toute la rédaction des cahiers de doléances dans les campagnes qui a provoqué une politisation et peut-être une peur, chez les paysans d'une réaction chez les nobles ?
Vous avez raison, mais oui, il faut vraiment comprendre que ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'il y a cette grande crise et que tout ça s'est enclenché et qu'avec la création des États généraux et en quelque sorte là aussi la mobilisation de toutes les paroisses, tout le monde a été concerné, y compris les femmes. C'est-à-dire qu'il y a bien eu là des mots d'ordre qui sont passés et des débats qui ont commencé. Et il y avait des tas de poudre, si je peux dire. Et puis l'étincelle, ce sont les États généraux d'un côté. Et puis, c'est autre chose. C'est aussi le roi qui chasse Necker le 11 juillet.
Et le ministre Necker.
Le ministre Necker est chassé. Les troupes arrivent de tout le nord de la France vers Paris. Imaginez que vous avez des milliers d'hommes qui marchent en armes vers Paris, traversent les campagnes et qui font 40 ou 50 kilomètres par jour. Et donc, ça frappe tout le monde et ça fait peur.
Mais on a peur de quoi ?
On a peur de manquer de pain, d'être vraiment mal en point. Ils ne mangeront pas à leur faim. Bon. Et là, on voit bien que dès le printemps 1789, des femmes notamment vont saisir des chariots qui transportent des grains et les piller, ou les revendre plus exactement. Donc on est dans ce climat où déjà les autorités traditionnelles ont été dépassées.
Il y a une sorte de vide du pouvoir déjà ?
Absolument. Le vide du pouvoir, il est là, peut-être parce que Louis XVI, depuis déjà 2 ou 3 ans au moins, n'a pas été capable d'organiser autour de lui des ministères qui répondent aux questions.
Pourtant, au lendemain de la prise de la Bastille, Louis XVI a fait revenir Necker. L'ordre pourrait sembler revenu.
C'est trop tard. Louis XVI va à Paris, mais il passe déjà sous le contrôle du maire qui vient d'être désigné bailli. Et puis, quand Necker revient, si on le dit très, très rapidement, il n'a plus l'autorité qu'il avait, parce que son pouvoir a été véritablement dévalorisé, précisément par tous les mouvements que vous avez rappelés, par ses insurrections, ses peurs, ses paniques, et c'est plus lui qui est aux commandes, ce sont les élites locales, les gouverneurs militaires, les curés, les maires, qui sont dans toutes les provinces, ceux qui font régner l'ordre, en définitive.
Merci Jean-Clément Martin. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la grande peur de l'été 1789 va débuter de plusieurs endroits en France et se propager.